L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM qui compte sur les compteurs. Eh bien oui, quoi de plus naturel au fond que l'alliance du compte et de la radio ? On a mis du temps, mais on a fini par s'y mettre. Nous avons pas moins de 2 émissions autour du compte cette saison. Le mercredi à 10h toutes les semaines, Il était une fois en Cornouailles se concentre plutôt sur le patrimoine légendaire et nous rappelle ou nous fait découvrir ses figures et ses traditions de Dahut à Lancou en passant par les poules piquets. Et puis nous avons le dimanche à 11h une fois par mois un compteur qui nous raconte les compteurs contemporains. C'est Michel Lidoux, réalisateur de l'émission « Ça va faire des histoires ». Bonjour Michel.
Bonjour. Bonjour Véronique.
Bon, alors vous êtes loin à cause de quoi ? À cause d'une particule blanche, c'est ça ?
Ben oui, voilà, figurez-vous que après avoir été longuement confiné, j'étais très heureux de découvrir enfin votre studio. Et ce matin, en me levant, eh bien, ma déception a été grande. Mais bon, j'ai une fille qui est au Canada, alors ça la fait rire, mais vous savez, nous, les Bretons, on n'ose pas trop prendre de risques.
Non, en revanche, vous allez en prendre des risques sur les ondes et vous allez nous raconter déjà, alors ça c'est vraiment le défi, comment est-ce qu'on devient conteur ? Enfin, dans votre cas en tout cas, comment ça s'est passé ?
Ah, ça c'est une vaste question. Alors, je pourrais vous dire que j'étais à la messe à 10h le matin et puis j'ai eu une illumination, mais là ce serait vraiment un mensonge. Non, tout d'abord, il faut savoir que moi je viens du théâtre. J'ai fait du théâtre pendant une bonne vingtaine d'années, tout d'abord en amateur, et puis ensuite en semi-professionnel. Et le théâtre, ça me plaisait, mais moi je suis quelqu'un d'un petit peu, je suis assez indépendant. Et cette notion où il fallait toujours, bien sûr, arriver à l'heure, et si on avait le malheur d'arriver en retard, on vous faisait comprendre que tout l'avenir de la pièce reposait sur vos épaules, et moi je trouvais ça lourd. Alors au bout d'un moment, j'ai commencé à faire un peu un cavalier seul. J'ai commencé à faire des monologues. J'ai travaillé un monologue en particulier qui s'appelait « Les méfaits du tabac » de Tchekhov. Je l'ai produit un petit peu dans quelques cafés et staminés des environs. Et puis un jour, une amie m'a proposé d'aller voir un spectacle de son et lumière qui était à Bertum. Oh, ça remonte quand même il y a une vingtaine d'années. Et ma foi, bon ben voilà, il y avait un comédien, présentateur sur la scène. Et puis, quand j'ai vu ce gars-là, je vais vous le décrire. Il brandissait d'une main un violon et il avait une barbe. D'une main, il brandissait un violon, de l'autre un archer, mais il ne jouait pas de musique. Il parlait. Il avait une barbe longue, longue jusqu'au nombril. Il s'appelait Patrick Ewen. Et quand j'ai vu ce gars sur la scène, eh bien là, oui, ça a été une révélation. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Alors, je suis allé le retrouver après. On a échangé un petit peu. Et puis, je me suis renseigné. Puis, j'ai appris que sur la ville de Brest, il y avait une association qui regroupait des conteurs et qui faisait des festivals de contes. Donc, l'ADAO, l'Association pour le développement des arts et de l'oralité, qui fait le festival Grande Marée, Petite Marée à Brest. Alors, je me suis rapproché donc de ces gens-là. J'ai commencé à être bénévole. De là, j'ai côtoyé beaucoup de conteurs dans le cadre des festivals. Après, je suis même devenu administrateur au sein de l'association. Et puis ensuite, je suis tombé dans la marmite du conte et j'ai fait des stages. Chez nous, c'est comme ça que ça marche. J'ai fait des stages avec des plus anciens que moi, ce qui devient difficile maintenant parce que, vu mon grand âge, j'ai de plus en plus de mal à trouver des plus anciens. Mais voilà comment ça a commencé. Et puis depuis, il se passe pas un jour sans que je pense conte. Et
qu'est-ce qui différencie le conte du théâtre, puisque vous avez commencé par le théâtre ?
Écoutez, déjà, au théâtre, il y a ce qu'on appelle communément le quatrième mur. Vous savez, vous avez le mur derrière vous, vous avez les deux murs de chaque côté, et vous avez le mur entre le public et vous. Parce que le public de théâtre, on l'invite en général, eh bien, à apprécier, à applaudir quand il le faut, à rire quand c'est prévu, mais il y a rarement d'interaction entre le public et le comédien. Ou alors c'est vraiment bien dans la structure de la Commedia dell'arte. Alors que là, dans le conte, c'est vraiment un échange, une interactivité. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est de pouvoir parler et pouvoir communiquer tout en racontant mes histoires et de sentir à quel point l'histoire, elle impressionne, elle pénètre ou même elle ennuie. Mais là, moi, je m'arrête et puis voilà, j'ai des interactivités constantes avec mon public. C'est ce qui fait toute la différence, je crois.
Et c'est ça qui vous plaît dans le conte. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous paraissent importantes dans la survie du conte alors, peut-être au niveau plus social, collectif
Eh bien, déjà, il y a la mémoire collective. Vous savez que dans pas mal de sociétés, en Afrique par exemple, la transmission par l'oralité est immense. Il y a beaucoup de gens qui sont analphabètes. Et on dit comme ça qu'en Afrique, à chaque fois qu'un conteur meurt, eh bien, c'est une bibliothèque qui brûle. Vous voyez, c'est un peu traduit d'un autre auteur qui s'appelle Amadou Vampaté, qui est un grand auteur que j'ai lu à peu près tout ce qu'il a écrit. Et tout, voilà, il y a à l'origine, vous savez, avant que l'écrit existe, la parole était là. Et on se transmettait toutes les informations de génération en génération par la voix, par l'oralité. Alors comment voulez-vous qu'on puisse oublier cet art qui est, pour moi, primordial ?
Et en Bretagne, alors c'est peut-être une impression, j'ai l'impression que c'est un art qui est encore particulièrement vivant, ou est-ce que c'est juste une impression un peu chauvine ou
Non, nous avons une culture de l'oralité encore profonde en Bretagne. Je peux vous dire par exemple que moi, l'avant-dernier spectacle que j'ai monté, c'était un spectacle autour des écrits et des souvenirs de Pierre-Jacques Hesselias, qui raconte comment il y avait à l'époque, alors c'était pas comme maintenant, on n'avait pas des conteurs qui montaient sur scène dans des théâtres. À l'époque, le conteur, c'était souvent l'ancien, hein, qui était invité, et puis il s'assoyait sur le bord de la cheminée et il commençait à raconter. Et quelquefois, il donnait en même temps des informations. C'était un peu le journal parlé à l'époque où il n'y avait pas encore ni la télévision, ni la radio, ni même l'électricité. Parce que l'électricité, selon les écrits encore de Pierre Jacques, a fait déjà beaucoup de mal aux conteurs. Parce que quand il y avait l'obscurité et qu'il y avait juste les flammes de la cheminée qui éclairaient les murs, eh bien les flammes en dansant déjà pouvaient permettre d'aller vers la fantasmagorie du merveilleux. Et puis le conteur, c'était un malin, il savait déjà manier son public, et quand il arrivait sur la fin de son histoire, il rabattait un petit peu les flammes avec de la cendre, et vous savez, ben, il avait déjà inventé le noir.
Vous, quand vous faites des contes, alors déjà, qu'est-ce que vous racontez ? Est-ce que ce sont des écrits de votre cru ou est-ce que vous racontez les autres, les textes des autres ?
Alors, je dirais les deux, en général, un peu de chaque. Mais en matière de créativité, j'ai sorti il y a quelques années encore déjà un album, enfin un CD de contes pour enfants. Donc, dans ce CD, il y a des créations, mais je ne suis pas assez prétentieux pour égaler ce que représente un conte traditionnel. Un conte qui a traversé toutes les générations, toutes les révolutions pour arriver jusqu'à nous. C'est là la puissance de ce conte-là. Sincèrement, je ne suis pas à la hauteur. Et ils sont tellement forts et tellement puissants que ceux qui essayent de se mettre à ce genre de conte, enfin ça c'est un avis personnel, hein. Mais à mon avis les contes ont déjà beaucoup beaucoup à nous apprendre, ceux qui sont encore passés par des centaines de bouches de conteurs et des centaines et des milliers d'oreilles pour arriver jusqu'à nous et qui se sont transformés en fonction en plus du caractère du conteur qui va y mettre sa touche personnelle, voilà. Donc la création, vraiment je le fais, mais sans grande, sans être trop prétentieux, quoi. C'est voilà, c'est un peu ça.
Et quand vous comptez les comptes des autres, alors ce sont des comptes bretons, des comptes d'ailleurs, africains notamment ou...
Alors, j'ai différents spectacles. Et bien entendu, je pense que pour bien raconter, il faut savoir de quoi on parle. Vous savez, moi, un conteur ou une conteuse, je vais dire française, qui raconte des contes africains, j'ai envie de lui dire laisse faire ceux qui connaissent vraiment. Alors, bien sûr, moi, ce que je raconte, c'est tout d'abord des contes bretons. Et puis aussi, je suis né dans une petite ville qui s'appelle le Relais de Kéruon, près de Brest. Et là, j'ai entendu des contes. J'ai interrogé les anciens. Et puis aussi, j'ai adapté des contes. Et le premier spectacle que j'ai fait, ça s'appelait Contes Kéror, parce que c'est comme ça qu'on appelle les habitants du Relais de Kéruon. Et là, j'aurais des milliers de choses à vous raconter, parce que je suis à Kéror, moi. Et ensuite, ma foi, j'ai un peu dévié. Là aussi, ça va contredire ce que je vous dis, parce que j'ai ensuite monté un spectacle de contes islandais, alors que je ne suis jamais allé en Islande. Mais voilà, on a insisté. En fait, c'était pour Océanopolis, le centre océanologique de Brest, qui m'avait proposé ça pendant les vacances de Noël. Il y a la thématique était l'Islande. Et ma foi, pendant à peu près une année, j'ai travaillé, je me suis documenté, mais j'ai jamais été en Islande et je sais pas parler islandais. Mais quand même, voilà, j'ai recueilli, ce spectacle a bien marché et je le produis encore de temps en temps.
Vous avez combien de spectacles, en fait?
Je suis quand même plus à l'aise pour parler de ce que je connais.
Et oui, c'est normal. Vous avez beaucoup de spectacles qui tournent encore? Combien vous en avez?
Alors, je vais vous dire, franchement, en ce moment, ça ne tourne pas beaucoup.
Oui, j'imagine. on va faire comme si. combien pourrait tourner, alors?
J'ai un spectacle aussi pour les enfants, oui. C'est celui qui tourne le plus, dans les écoles, etc. Parce que je fais des ateliers contes aussi. Pour apprendre aux enfants l'art du conte. Parce que, vous savez, la parole...
Ah, on dirait qu'on vous a...
Voilà, je n'ai pas besoin de vous en dire plus, c'est tellement important. La plupart des professeurs des écoles, d'ailleurs en sixième, le conte est au tableau, à l'affiche, au programme, pardon. Et donc, je fais des ateliers conte avec les enfants et j'ai un spectacle qui est adaptable à peu près à tous les âges d'enfants, qui s'appelle les asticontes, parce que les asticontes, c'est pour les petits asticots. Voilà. Sinon, j'ai fait aussi, dans le cadre de la commémoration des 100 ans de la fin de la guerre 1914-1918, là, j'ai fait un récit de vie. Un récit de vie qui parle de l'histoire d'un Kéror, puisque maintenant vous savez qui sont les Kérors, un Kéror poilu qui a écrit à sa femme, et il se trouve que le petit-fils de ce Kéror, c'est un ami, et on a retrouvé ensemble dans son grenier une bonne centaine de lettres écrites, toute la correspondance que le poilu a écrit à sa femme pendant toute la guerre, elle a gardé toutes les lettres. Alors vous pensez, quand il m'a offert ça, c'était ce qu'on appelle vraiment un cadeau, le genre de cadeau qui peut arriver que quand on y croit. J'ai donc produit ce spectacle, mais il a tourné surtout pendant les commémorations, quoi. Alors maintenant, je suis obligé d'attendre, je pense, 2050 pour le refaire.
C'est ça, les 150 ans de la Première Guerre mondiale. Et vous nous parliez tout à l'heure un petit peu mise en scène, de cheminée au coin du feu, de noir, etc. Comment est-ce que vous mettez en scène vos contes?
Comment est-ce que je mets en scène? Alors, on appelle ça une mise en bouche. En général, ça va être encore contradictoire. Là, le dernier spectacle, maintenant, je suis en train de l'écrire. Mais jusqu'ici, je n'écrivais pas. Je lis, je prends quelques notes et j'essaye d'oublier le plus vite possible ce que j'ai lu et je commence à raconter l'histoire à ma façon. Comme vous, quand on vous raconte une blague, vous n'allez pas prendre un crayon pour la noter mot à mot. La blague, vous allez la faire passer en rajoutant quelque chose à vous ou en enlevant quelque chose qui vous a déplu. C'est comme ça que je travaille. Je transcris, je transmets, mais je transmets avec mes émotions, avec ma vision des choses, tout en conservant, bien entendu, la trame de l'histoire. Ça, c'est obligé, c'est obligatoire. Hein. C'est la seule chose qui est obligatoire, d'ailleurs.
Donc là, vous nous parlez de mots, mais pas tellement d'effets visuels, finalement. C'est pas trop
Alors,
important.
L'effet visuel, j'ai un ami conteur qui s'appelle Pepito Matteo. Il a dit comme ça, le conte, c'est le cinéma du pauvre. Et bien souvent, quand je commence mon spectacle, j'annonce, n'allez pas chercher ce qu'il y a de vrai ou de faux dans mes histoires, essayez seulement de voir ce que vous entendez. Et c'est quand même assez courant que le public vienne me trouver après en me disant, ben, j'ai vu tout ce que vous avez raconté. Il faut fermer les yeux et faire son petit cinéma intérieur. Et ça, vous voyez, c'est pratique parce que ben, on peut le faire encore, hein, c'est pas interdit. Voilà. Surtout, ben, par exemple, la radio, là, vous m'entendez. Vous ne pouvez pas me voir, mais si vous avez un peu d'imagination par rapport au son de ma voix, vous pouvez m'imaginer. Eh bien, quand je raconte et je décris les choses, et en général, eh bien, ça passe.
Mais d'ailleurs, ça se fait de plus en plus, les spectacles, les yeux bandés, là, vous pourriez proposer ça.
tout à fait, oui, oui, c'est possible. Hein. Alors, j'ai fait aussi, oui, j'ai oublié de vous dire, dans mes nombreuses... création. J'ai aussi la création d'un spectacle qui s'appelle Les Chuchocontes érotiques, qui est réservé bien sûr à une certaine catégorie de personnes au-delà de 16 ans, on va dire. Ce sont des contes érotiques, mais attention, ce ne sont pas des contes pornographiques. Il y a beaucoup d'humour. Vous savez, dans le temps, justement, dans les contes bretons, il y avait beaucoup de contes. On racontait quelques histoires aux enfants. Ensuite, on les mettait au lit, et là, la soirée commençait vraiment avec des contes à ne pas mettre en toutes les oreilles. Et dans le cadre de, donc pour répondre à ce que vous dites, dans le cadre de cette création-là, eh bien, j'ai appelé ça les chuchocontes parce que je chuchote dans un micro aux spectateurs qui, eux, auront un casque sur les oreilles. Et en effet, rien ne leur empêche, au contraire, ils auront tout intérêt à fermer les yeux pour mieux voir ce que je raconte. Alors ça, c'est un spectacle que je propose en toute intimité, par exemple, dans un café. Je peux avoir une tablée d'auditeurs qui branchent les casques, donc j'ai 6 casques, et puis moi je parle dans le micro, et ça permet de raconter... et d'interagir sans déranger les autres personnes dans l'assemblée ou dans le voilà, j'ai fait ça aussi et puis je peux faire aussi la version alors en salle en public voilà.
Et puis vous êtes mis à faire de la radio en plus comme si ça ne suffisait pas dont on profite puisque nous diffusons votre podcast. Qu'est-ce que vous avez comment est-ce que déjà vous est venue l'idée de faire de la radio? Bon, ça paraît presque naturel hein, je le disais.
Oui, tout à fait. C'est un copain qui m'a dit, ben, pourquoi tu fais pas une émission de radio? Alors, j'ai commencé à enregistrer des contes d'abord, comme ça aussi, ben oui, comme tout le monde, hein, sur une page YouTube. Et puis après, je me suis dit, non, moi, ce que j'ai très envie, c'est de faire découvrir un maximum de personnes l'art du conte. Et puis, tous ces gens qui sont comme moi, dont le métier principal, le métier de rêve quelque part, hein. C'est vrai que c'est un rêve de pouvoir être payé pour raconter des histoires, on me l'a dit déjà, eh bien j'ai envie de connaître tous ces conteurs, cette génération, la première génération de conteurs en particulier, qui ont fait revenir en ce qu'on appelle le renouveau du conte, parce que comme je vous ai dit, le conte a toujours existé depuis la nuit des temps, mais il était un peu tombé en désuétude, et c'est un peu avec les années folk, dans les années 70, le courant folk a fait revenir un peu ce plaisir à pouvoir écouter des gens qui racontent des histoires traditionnelles. Alors, donc voilà, bien sûr, j'ai voulu, à travers cette émission, je veux faire découvrir des gens que j'aime et que je connais, et qu'en général, ces gens-là, ben, c'est des conteurs, hein. Ils ont beaucoup de choses à dire.
Oui,
c'est intéressant, comme vous, de savoir eh bien, comment sont-ils tombés dans la marmite du conte.
Citez-nous quelques noms d'ailleurs de contes. Alors, les premiers, la première génération, enfin, la génération du revival du conte. Qu'est-ce que vous avez comme nom?
On va dire, je vais dire un peu, il y a le maître, le grand maître, Monsieur Henri Gougou. qui lui aussi, d'ailleurs, entre parenthèses, a fait de la radio pendant très longtemps. Il animait une émission sur France Inter qui s'appelait « Marche ou rêve ». Il a fait plusieurs années de chronique sur la radio. Et puis, c'est un grand monsieur du conte. Et autrement, ben, dans ces gens-là, il y a aussi Catherine Zarkat, que j'aime beaucoup. Et puis, alors, une mention particulière pour Michel Hindenock, qui est un peu, je vais dire, mon maître. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est avec lui que j'ai travaillé, que je me suis formé au cours de nombreux stages, avec des modules de plus en plus longs et importants. Et puis, c'est un personnage extraordinaire, je vous conseille. Il s'appelle Michel Hindenock. Alors, sinon, j'aurais des noms et des noms. Hein.
Bah là, ce mois-ci, par exemple, on diffuse Isabelle Poggi. Alors, qui est-elle, Isabelle Poggi, en quelques mots?
Voilà, Isabelle Poggi. Alors, c'est extraordinaire. C'est une conteuse que je connais depuis 10 ans, mais nous ne nous sommes jamais vus en vrai, en physique. Elle habite à Nice. Elle devait venir à Brest, et puis finalement, ça a été annulé. Elle devait venir dans le cadre, je crois, d'une grande fête maritime, là, je ne sais plus quelle.
Bien sûr, ben oui.
Elle n'est jamais venue, mais on a toujours continué à correspondre, à échanger. Et puis voilà, c'est comme ça que... Et on continue, d'ailleurs, on échange toujours. Et Isabelle, ben voilà, c'est comme moi. Isabelle, elle, c'est toute la... Alors, elle est d'origine corse, et puis le pays niçois. Et quand Isabelle raconte le pays niçois, eh bien, on sait que Isabelle, elle n'invente pas. Elle est née là, dans ce pays-là. Et voilà, on parle de sa culture avec ses mots, mais avec l'amour qu'on a. Et puis, ça, c'est important, ça.
Comment est-ce que vous faites pour réaliser vos émissions? Alors, je ne parle pas forcément de en ce moment, parce que tout est différent, mais vous profitez de festivals pour enregistrer les compteurs, c'est ça? Comment vous faites? Vous n'allez pas dans toute la France?
Voilà, bah, écoutez, il y a plusieurs... moi je préfère inviter le compteur quand c'est possible chez moi, parce que moi j'aime bien créer une forme de convivialité, hein. On mange ensemble, on échange d'abord, et puis après... voilà, puis c'est plus facile quand on se voit face à face. Moi, je suis encore pour la réalité, en chair et en os, ça devient de plus en plus difficile, mais c'est ce que je privilège. Alors, quand c'est pas possible, comme Isabelle, par exemple, eh bien, je fais comme on est obligé de faire, malheureusement. On passe par la voie d'Internet, du téléphone, mais à chaque fois que je peux, je privilégie quand même le rapport humain, tête à tête, face à face. Alors, j'invite les compteurs, comme je vous dis, ou alors je vais chez eux. Pour John Molineux, par exemple, je suis allé chez lui dans les Monts d'Arrée, là, c'est un endroit absolument extraordinaire pour un compteur. Et aussi pour une autre compteuse, je suis allé à un festival. Alors ça, évidemment, quand je sais qu'il y a un festival de contes dans les environs, eh bien, je m'arrange, surtout si je connais le compteur, pour faire une émission avec lui.
Oui, parce que voilà. C'est bien d'avoir un extrait de spectacle aussi, quand même, pour avoir une idée de la façon dont ça se passe dans l'émission. Alors,
c'est ce que je fais. Je mets des petits bouts avec l'accord du compteur, je mets des extraits. Bon, Isabelle, non, je crois que ça ne s'est pas passé comme ça, mais pour Jeanne Ferron, par exemple, j'ai uniquement mis que des extraits. Elle n'avait pas envie de raconter, elle était fatiguée. Ça aussi, elle sortait de scène, donc ce n'est pas toujours facile faire des interviews. Et là, j'ai mis que des extraits, mais en général on trouve ça sur le net.
Et les choix musicaux, vous les faites vous-même ou vous les faites en accord avec le conteur ou la conteuse interviewée?
Oui, je veux dire les deux en général. Par exemple, pour Jean-Marc Derouin, c'est lui qui est arrivé avec ses propres CD, donc la programmation musicale, elle est de lui. Par contre, je lirai tous les autres, eh bien, ils m'ont donné carte blanche, et puis voilà, je choisis des musiques qui, pour moi, correspondent un petit peu à l'univers du conteur.
Comment est-ce que vous voyez l'avenir du conte actuellement?
C'est une question fondamentale, mais je crois que le conte existera toujours. On aura toujours besoin, j'espère, hein, on aura toujours besoin de contacts et puis d'échanges. Et puis, une vision poétique, vous savez, le conte, ça peut même être un art de vivre. Parce que chaque conteur que j'ai rencontré m'a toujours parlé d'un conte, celui qui le suit, celui qui est le conte qui lui parle. Je raconte aussi, et c'est vrai, il y a un conte, par exemple, je fais aussi un spectacle sur Pierre-Jacques Essélias, Et il y a un conte que j'avais très envie de raconter, mais ce conte est tellement fort et tellement puissant. C'est Jean des Pierres, ou Jean qui parlait aux pierres. C'est un conte traditionnel. Et ben, il est tellement puissant et tellement fort que je me sens petit à côté du conte. Et là, je sais que ben, c'est lui qui va décider. C'est le conte qui va décider quand je serai prêt à le raconter. Alors, quelquefois, ben, ce conte-là, oui, j'ai mis un an. J'essaye de raconter, puis quand je vois que ça passe pas, ben, je ferme le livre, et puis je le mets dans un coin, et puis je reviens un mois ou deux mois après. Et puis là, au bout d'un moment, voilà, c'est comme si le conte avait dit « Ok, là t'es prêt, vas-y ».
Et vous avez digéré. Bon, bah, merci Michel Lidoux. On vous retrouvera sur notre antenne via l'émission Ça va faire des histoires, qui est diffusée. Donc, c'est une émission mensuelle, mais on la diffuse donc un dimanche sur 2 à 11 heures. Et ce mois-ci, c'est Isabelle Pozzi. À bientôt.
Au revoir.